Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Nord Kivu, le trafic est coupé entre Goma, Sake et Minova. C'est après la prise de Chacha hier par les rebelles du M23. Du coup, la cité de Sake et la ville de Goma ne savent plus s'approvisionner en produits vivriers en provenance de Minova et Bweremana. Bientôt le retrait de la MONUSCO du Sud Kivu. La société civile de cette province dit prendre acte. Position exprimée hier à Bukavu, c'était lors d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui est en visite sur place. La société civile du Sud Kivu émet cependant certaines craintes, notamment sur le plan sécuritaire. Et puis, l'invité de ce midi, Alain Yeti, secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires, il nous parle de l'atelier de vulgarisation organisé hier à Mbujimayi sur la politique nationale des actions humanitaires. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. La route nationale numéro 2, Goma-Bukavu, est coupée à partir du centre de Chacha par les rebelles du M23, ce, depuis hier, en fin de la journée. Chacha est située à 9 km de la cité de Sake, dans le groupement Mufuni-Shanga. Cette rupture est consécutive aux intenses combats qui ont opposé les Wazalendo FARDC aux rebelles du M23. Cette route est d'importance économique, elle est stratégique et relie la cité de Sake à Minova. C'est un grand marché de la région qui alimente la ville de Goma et ses environs. Denise Lukeso nous fait le point.
Le trafic est coupé entre Goma, Sake et Minova après la prise de Chacha hier par les rebelles. En conséquence, la cité de Sake et la ville de Goma sont coupées de tout approvisionnement en produits vivriers en provenance de Minova et Bweremana. Le M23 a lancé l'attaque à partir des collines d'Engingwe et de Muremure, deux collines stratégiques qu'il occupe depuis deux jours maintenant. Sur place à Chacha, les rebelles auraient érigé une barrière en plein centre de ces villages. La société civile de Masisi donne un bilan provisoire de deux civils tués et 8 blessés ainsi que les déplacements massifs des populations. Des malades de l'hôpital de Kiroche ont abandonné leur lit d'hospitalisation pour se mettre à l'abri, témoigne une habitante de Kiroche en fuite. Pendant ce temps, c'est la psychose qui empare les habitants de Minova en territoire décalé au sud Kivu. La société civile locale parle d'un afflux de déplacés des villages Nguba, Kiroche, Kiluku, Chacha, Kituva, Bweremana, Kihindo, fuyant les combats, alors que d'autres déplacés ont pris la direction des Sake. C'est depuis le début de cette semaine que les affrontements se sont intensifiés dans les territoires du Masisi, causant plusieurs dégâts humains et matériels. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Par ailleurs, toujours au Nord Kivu, les journalistes de Masisi, une zone en conflit armé, plaident pour le respect de la liberté de la presse dans cette région, surtout en cette période où la population a besoin d'être informée sur l'évolution de la situation sécuritaire et humanitaire dans cette partie de la province. Félix Baloumé-Angui, directeur général de la radio communautaire de Mweso, revient ici sur la vie professionnelle que mènent les journalistes de la région de Masisi. En cette période très tendue, il est joint par Denise Lukeso.
Ce sont des conditions très précaires. La sécurité n'est pas rassurée. Du fait que la zone est sous contrôle du M23, on a peur soit de partager certaines informations qui peuvent coûter notre vie. Mais nous sommes obligés de rester dans la zone et d'informer notre population. Comme un média communautaire, une église au milieu du village. Et là, nous sommes entrés et jouer avec la déontologie, surtout comment on doit se comporter pendant la période sensible des conflits armés dans la zone. On est seul dans la zone. C'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler, malgré les conditions très difficiles, malgré les sécurités. C'est que nous, on peut demander seulement aux partis de respecter la liberté de la presse dans la zone, parce qu'on est en train de travailler au compte de la population, juste pour informer la population. Un peuple sans information, c'est un peuple oublié. Que notre sécurité soit garantie.
Du côté de l'Ituri, deux factions de forces patriotiques et intégrationnistes du Congo se sont affrontées vendredi et hier samedi au groupement de Kunda, une dizaine de kilomètres au nord de Bunia. Selon des sources concordantes, des pertes en vies humaines et des blessés ont été enregistrées dans les deux camps avant l'intervention des FARDC pour déloger ces miliciens. Ces derniers ont pillé plusieurs biens, incendié des dizaines de maisons et des milliers d'habitants ont trouvé refuge dans les localités proches. Récit des faits avec Isaac Remoyo.
Des tensions étaient observées depuis vendredi entre la faction de la milice FPIC de Kunda et celle de Mwanga à environ 12 km de Bunia. Les deux parties se sont affrontées dans les villages de Beabo puis à Matumini jusqu'à samedi à la mi-journée. Les leaders de ces factions se disputeraient le contrôle de certaines localités où on exploitait de l'or. Selon des sources locales, il y a eu des morts et des blessés dans les deux camps sans déterminer les nombres car la zone est encore inaccessible. Au moins 57 maisons ont été également incendiées et plusieurs biens de la population pillés par ces civiques qui ont été délogés samedi vers 11h par les FARDC. Suite à ces affrontements, tous les habitants de Beabo, Matumini et du centre commercial de Kunda ont fui vers Chari, proche de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri. Les boutiques, les marchés, les écoles et même l'exploitation de l'or, tout est paralysé depuis vendredi dans ces groupements, rapporté des sources locales. Depuis ce dimanche, un calme s'observe dans ces milieux grâce à la présence des FARDC qui contrôlent cette entité. Les autorités militaires encouragent les habitants à retourner dans leur ville d'origine. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour au Nord Kivu. Le calme est revenu à Mangurejipa, une localité du territoire de Lubero. C'est après une vive tension dans la zone depuis vendredi. Tension causée par des manifestations des partisans de certains candidats malheureux aux dernières élections législatives. Ces personnes protestaient ainsi contre les résultats provisoires publiés par la CENI. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, le bureau du chef du secteur de Bapere, qui avait été illégalement fermé par des manifestants, a été rouvert par les forces de sécurité. Le colonel Alain Kiwewa annonce le renforcement du dispositif sécuritaire dans la zone pour le maintien de l'ordre public. Au Kasaï-Oriental, un mort et un camion incendié en représailles, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu le vendredi en pleine cité de Kenakuna, chef-lieu du territoire de Kabeaka-Mwanga. D'après quelques habitants de cette cité, un camion d'un particulier a percuté un motocycliste qui est mort sur le champ. Le conducteur poursuivi par les habitants a perdu le contrôle et a fini sa course dans la clôture de la parcelle résidentielle du feu Étienne Tshisekedi, détruisant une partie du mur de clôture. En représailles, les habitants de cette cité ont incendié ce véhicule. Le conducteur, lui, a réussi à prendre le large, affirme la même source. Je vous le disais en titre, la société civile du Sud Kivu, dans sa diversité, dit prendre acte du désengagement de la MONUSCO de cette province après une vingtaine d'années. Position exprimée hier samedi à Bukavu au cours de la rencontre des membres de la société civile avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix. La société civile du Sud Kivu émet une série de craintes. Cependant, quant à l'avenir de la situation politique, sécuritaire et socio-économique après la MONUSCO dans cette province. Emmanuel Elameji Wakabedi nous en parle.
Tout en prenant acte du désengagement de la MONUSCO en cours au Sud Kivu, la société civile dit sa gratitude à l'ONU pour tous les efforts consentis en faveur de la paix. Pendant ces temps, devant Jean-Pierre Lacroix, les membres de la société civile émettent des inquiétudes sur l'évolution de la situation après MONUSCO. Ils attirent l'attention de l'ONU sur l'expérience malheureuse de sa mission au Rwanda en 1994. Plus jamais ça, disent-ils. Il est demandé à l'ONU de changer le narratif des crimes et violations massives des droits humains commis en RDC, de mettre fin aux attitudes et discours diplomatiques ambigus de la communauté internationale sur la situation dans l'est de la RDC, cela en prenant des sanctions contre les auteurs des crimes graves par un tribunal pénal international pour la RDC. La société civile du Sud Kivu s'interroge sur sa part à elle après des décennies de collaboration avec la MONUSCO. À ce sujet, elle appelle l'ONU à concrétiser son appui au projet de construction de la Maison du Citoyen dont les travaux ont débuté à Bukavu. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Province du Kwilu, la population du territoire de Massimanimba demande à la CENI de revoir son calendrier électoral publié récemment. Calendrier concernant la tenue des élections législatives à Massimanimba et à Yakoma, où les scrutins ont été annulés pour notamment fraude électorale, bourrage des urnes et vandalisme. Cette population souhaite que la dite élection ait lieu avant l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres des bureaux des assemblées provinciales. Cela pour permettre aux députés de participer aussi au vote des sénateurs notamment. On écoute un extrait du mémorandum de la population de Massimanimba lu à cette occasion, propos recueillis par Irène Boma.
Nous, forces vives du territoire de Massimanimba, province du Pilou, remercions la CENI pour avoir publié les calendriers des scrutins pour Massimanimba et Yakoma. Demandons à Monsieur le Président de la CENI de revoir son calendrier avant l'élection de sénateurs, gouverneurs, membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Il est inacceptable qu'on puisse priver la population de Massimanimba d'élire leurs gouverneurs, leurs sénateurs et leurs membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Quand bien même ces élections sont à suffrage universel, en direct. Donc, nos députés élus ne peuvent pas être privés de ces droits, étant donné que Massimanimba, celle à 8 sièges, ces 8 voix vont fortement impacter à l'élection des gouverneurs, sénateurs et membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Comment ils seront dirigés par un gouverneur qui n'ont pas élu? Et comment ils seront représentés par des sénateurs qui n'ont pas élu? Raison pour laquelle nous demandons au président de la CENI de revoir les calendriers afin que cela ait eu lieu après la publication des élections nationales et provinciales de Massimanimba et puis nous pourra organiser son élection.
Direction la province du Maniema. Environ 400 000 enfants de moins de 5 ans sont en conflit avec leur calendrier vaccinal. Révélation faite le jeudi 1er février par le président provincial de la Croix-Rouge Maniema. C'était lors d'un atelier de formation au profit du personnel de la Croix-Rouge. Eléazar Kakwala fait savoir que cette situation classe la province du Maniema en deuxième position en RDC. Ainsi donc, la Croix-Rouge Maniema va exécuter un projet pour récupérer tous ses enfants zéro dose et sous vaccinés. Eléazar Kakwala, président provincial de la Croix-Rouge Maniema, explique la situation au micro de Florence Kizalunga.
Il s'agit du renforcement des capacités de notre personnel qui ont été recrutés dans notre projet d'immunisation ou l'identification et la recherche des enfants insuffisamment vaccinés avec zéro dose dans cette zone de santé de la province de Maniema. Il s'agit d'un renforcement des capacités qui s'articule sur beaucoup d'axes, notamment sur les notions de la vaccination, sur les notions en vogue aujourd'hui dans les domaines de la récupération des enfants suffisamment vaccinés. Ça permettra bien entendu d'atténuer des maladies évitables par la vaccination. L'objectif, c'est de réduire substantiellement le nombre d'enfants qui sont en conflit avec leur calendrier vaccinal. C'est-à-dire, on cherchera à les amener à des structures de soins de manière à suivre régulièrement leur vaccin. Ce projet est pour 3 mois. C'est un projet expérimental. La province de Maniema est la deuxième province. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en conflit avec leur calendrier vaccinal.
Et puis, installation d'une usine de transformation d'engrais chimiques et de construction d'un parc agro-industriel dans le Congo central. Ce projet a fait l'objet d'une rencontre entre le gouvernement congolais et la firme canadienne Fertile Ground. Hier, à Kinshasa, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui représentait la partie gouvernementale, a appelé cet investisseur à être plus pragmatique. Pour sa part, Bill Cannon, patron de Fertile Ground, a assuré le gouvernement congolais des capacités techniques et financières de son entreprise à exécuter ce projet. Bill Cannon est au micro de Paul Matendo Mayamba.
We can create food and the people can win and the country can win.
Bill Cannon est l'objet de la rencontre avec le ministre était par rapport au programme agro-industriel qui implique les champs modernes et également l'usine de transformation et de production d'engrais. Et l'idée, c'est de construire des champs modernes avec des nouvelles technologies pour essayer d'avoir des meilleures façons de cultiver et avoir des cultures qui sont saines pour qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. Donc la réaction du ministre était très positive. Et à savoir quand est-ce qu'on veut commencer, on va suivre l'agenda du gouvernement. Mais à notre état d'être prêt, on peut juste illustrer en disant que si le gouvernement demandait de commencer, demain on va commencer aujourd'hui. Si le gouvernement demandait qu'on commence samedi, on commencera vendredi. Donc nous sommes prêts et on va suivre l'orientation du gouvernement pour commencer le projet le plus tôt possible.
We can create food.
Actualité internationale.
Nous sommes au Sénégal. Les Sénégalais n'y seront plus convoqués aux urnes le 25 février comme prévu. Le scrutin présidentiel a été reporté, sine die, par un décret signé hier par le président Macky Sall. Il abroge celui du 26 novembre 2023, fixant l'élection présidentielle au 25 février 2024. Au centre de ce report, la mise en place d'une commission parlementaire enquêtant sur deux juges de la Cour constitutionnelle accusés de corruption par le parti Karim Ouad, dont la candidature à la présidentielle a été rejeté pour n'avoir pas renoncé à sa nationalité française, attend au total au moins 40 dossiers de candidature avaient été rejetés par la Cour constitutionnelle, dont celui d'Ousmane Sonko, qui purge une peine de 6 mois pour diffamation. Cette décision a été annoncée à quelques heures de l'ouverture de la campagne électorale.
L'invité.
Il nous vient du Kasaï oriental. Parlons de cet atelier de vulgarisation hier à Mbujimayi de la Politique nationale des actions humanitaires. Les responsables des services étatiques concernés par les actions humanitaires et les catastrophes, ceux des organisations nationales et internationales, ainsi que les représentants des agences du système des Nations Unies ont participé à cet atelier organisé par le ministère des actions humanitaires en collaboration avec le bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA. Alain Ieti, secrétaire général au ministère des affaires humanitaires, s'entretient à ce sujet avec Esther Ndalafina.
Bonjour, monsieur Alain Ieti. Vous vous retrouvez en Mbujimayi, au Kasaï oriental. Quel est le but de votre mission?
Merci, madame. Nous faisons une tournée à travers l'espace Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Kasaï pour vulgariser la politique nationale des actions humanitaires et renforcer la coordination des acteurs humanitaires.
Est-ce que nous pouvons savoir les grandes lignes de cette politique nationale des actions humanitaires?
Les actions humanitaires, ce sont des interventions qui visent à sauver des vies et à alléger les souffrances des gens qui sont frappés par les catastrophes et situations d'urgence. Alors quand on parle de catastrophes, il y a trois grands éléments. Il y a d'abord l'identification du risque des catastrophes et les actions anticipatives de préparation de la réponse. Il y a la réponse aux catastrophes proprement dites, mais après le catastrophe, il y a des actions de reconstruction pour permettre aux populations de passer l'état de détresse ou de se relancer dans leur développement personnel.
Quels sont les nouveaux éléments ou bien les nouvelles informations qui ont été intégrées dans la politique nationale des actions humanitaires?
La politique existe depuis parce qu'elle découle des accords internationaux. Mais dans d'autres pays, nous voulons mettre l'accent sur quelques éléments. Le premier élément, c'est la gouvernance. Le mécanisme de coordination, le loi et règlement qui doivent permettre de mieux anticiper les crises et de répondre aux crises. Ça, c'est la gouvernance. Le deuxième élément sur lequel nous insistons, c'est la réduction de risques et des catastrophes. Ce sont des actions anticipatives qui doivent être menées pour atténuer le risque. Et cela se fait dans plusieurs secteurs. Parce que le risque que nous connaissons, ils sont là. Nous vivons avec ces risques, mais nous ne faisons presque rien au point que la plupart des temps, les catastrophes viennent comme des inconnus. Le troisième aspect sur lequel nous voulons aussi insister, c'est aussi un axe, c'est la coordination. Les actions humanitaires, c'est une responsabilité de l'État qui travaille avec le partenaire. Donc, il faut que dans le cadre de la responsabilisation de l'État et des renforcements des capacités institutionnelles, l'État reprenne son lead et qu'il travaille de manière consensuelle avec tous les partenaires pour plus de synergie et de complémentarité des interventions.
Et si la politique nationale existe déjà, pourquoi la vulgariser aujourd'hui encore?
Nous la vulgarisons dans ces contextes, notamment dans le Kasaï, parce que vous savez, la situation est devenue stable. Le bureau des Nations Unies en charge des affaires humanitaires doit fermer. Et c'est ce bureau qui aidait l'État dans la coordination. Maintenant, il faut que les services étatiques montent au créneau pour reprendre le travail de coordination.
Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Est-ce que vous leur avez donné les atouts, les connaissances pour qu'ils puissent le faire et que ça soit bien coordonné?
C'est le travail que nous sommes en train de faire. La première chose, c'est que les acteurs doivent connaître le rôle, les attributions, les outils qui existent et puis les attitudes et les pratiques qui permettent d'avoir une bonne coordination. La coordination voudrait dire qu'on doit être ensemble pour identifier le besoin, on doit être ensemble pour mener les évaluations, être ensemble aussi pour mobiliser des ressources et rendre compte. Alors si cela est fait, nous avons dit c'est la responsabilité de l'État qui doit mettre le moyen à la disposition de ses services. C'est ce qu'on appelle le renforcement de l'autorité de l'État qui va avec les capacités techniques mais aussi les moyens moyens pour faire le travail sur terrain.
Au Kasaï oriental, il y a bien évidemment beaucoup de personnes qui ont connu des catastrophes telles que les éboulements de terrain, qui continuent à vivre aujourd'hui à la Belle Étoile ou sont dans des familles d'accueil. Et jusque-là, nous ne voyons pas l'impact de l'action humanitaire.
Oui.
Comment expliquez-vous cela? Parce que vous représentez l'État.
L'action humanitaire est là pour sauver les gens au moment des catastrophes, pour leur apporter des solutions temporaires. Mais la question des stabilisations, c'est une question de développement. C'est là où, maintenant, on parle de l'approche Nexus, où les acteurs humanitaires, les acteurs de développement doivent être ensemble pour voir quelles sont les solutions apportées par rapport aux problèmes structurels qui permettent aussi aux populations de mener d'une manière acceptable leur existence. Donc, le problème qui se pose dépasse le cadre des actions humanitaires, devient le problème du développement qui demande la conjonction de plusieurs secteurs.
Monsieur Alain Ieti, je vous remercie.
Merci, madame.
Le secrétaire général au ministère des Affaires humanitaires répondait aux questions d'Esther Ndalafina. Par ici prend fin ce journal coordonné par Jacques-Yves Molima à Outa, Pierre Diassinois à la technique. Merci d'avoir été des nôtres.